invité, une playlist. Un mercredi soir sur deux, 20h-21h, Tour de Piste est sur Principe Actif.
Mon invité de ce soir se destinait à une carrière de styliste automobile. C'est pourtant vers la photographie qu'il se tournera. En 1982, il suit pendant 3 mois une bande de jeunes rockabilly. Il en sortira une série de photos et un film intitulé Rockabilly Forever. Film qui sera diffusé en avant-première au Manège Tilly le 28 novembre. Gilles Rigoulet est à mes côtés ce soir et jusqu'à 21h sur les ondes de Principe Actif. Bonsoir Gilles.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Tour de Piste.
Un plaisir.
Donc le film sur les rockabs sort 37 ans après cette aventure avec eux. Comment est venue l'idée de choisir la vidéo comme médium pour Rockabilly Forever?
C'est une suite de choses. Je veux dire, le but n'était pas spécialement de faire une vidéo. Ça a été d'abord, pour moi, dans les années 2015... de montrer déjà ces images et à partir du moment où j'ai compris que cette série d'images avait un intérêt, on en a fait un livre en 2016 et c'est au travers de la sortie de ce livre que j'ai mis en avant, j'ai compris que cette série avait un poids dans l'histoire du rock en France, parce que je veux dire, c'est une démarche qui était très reportage, la série que j'ai réalisée, et c'est un fait que très peu de gens ont travaillé comme moi sur cet ensemble. Le livre montre un peu cette approche qui est très où c'est un vrai suivi et qui vient détailler leur vie quotidienne. C'est-à-dire que je me contente pas de faire des photos sur les sorties, c'est beaucoup plus quelque chose sur leur quotidien. C'était des gens qui étaient ouvriers, qui travaillaient tous et qui vivaient pour la plupart chez leurs parents. Donc moi, ça m'a intéressé d'aller chez eux et tout, et de les suivre un peu dans ce qu'ils réalisaient dans leur semaine, c'est-à-dire le café, la réparation des voitures, les quelques relations qu'ils avaient avec des copines et tout, les lieux de rencontre, le King Bee qui était le disquaire de l'époque où ils allaient souvent. Donc c'était beaucoup plus ça quoi qui m'a intéressé sur l'époque, et ce détail du quotidien a été le fait majeur de la reconnaissance de ce travail au niveau national et international. C'est au moment où j'ai donné le livre après sa réalisation à ces types de la bande, que là je me suis aperçu que leur parole était vraiment intéressante et sur l'époque, parce que à l'époque on n'avait pas prélevé leur parole, on savait pas qui ils étaient, qu'est-ce qu'ils étaient, c'était juste un ensemble de photos qui étaient parues dans la Dépêche, mais on n'avait pas un retour sur qui ils étaient, et c'est en fait que là, quand j'ai commencé à discuter avec eux au travers du livre que je leur ai donné, il y a eu une meilleure explication de ce qu'était l'époque, quoi. Et c'est là où j'ai compris qu'il fallait probablement en faire un documentaire.
Et justement, t'as beaucoup suivi l'histoire du rock à Évron. On va en parler. Cette histoire, elle est très particulière. L'histoire de la ville est liée à cette musique qui vient des États-Unis. Parmi les nombreuses ramifications des musiques rock, c'est le rockabilly que tu as choisi. Est-ce que cet aspect, c'est un genre qui filtre plutôt dans les milieux populaires? Est-ce que cet aspect-là qui t'a séduit chez eux, ça aurait pu être d'autres thématiques?
Ouais, non, pas spécialement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre un milieu. Moi, je suis. Faut vraiment comprendre que moi, je suis reporter photo, et moi, ce qui m'intéresse, c'est le suivi, le social. Et donc, c'est un fait que cette bande, quand j'ai compris qui ils étaient, le pourquoi, moi, ce qui m'intéressait, c'était de disséquer un peu qui ils étaient. Et quand j'ai compris aussi que c'était un monde ouvrier, bon, c'était ça, point. C'était juste un constat, mais c'est vrai que c'était intéressant de l'éclairer, quoi. Et ça c'était bien. Moi, sans ça, j'ai travaillé surtout, j'ai fait un suivi sur le monde du rock à Évreux et au-delà aussi, en Normandie, et ça a toujours été une passion pour moi, je veux dire, le rock, mais bon, et mille autres choses, mais le rock ici, ça a été, j'ai vraiment fait un suivi de plein de groupes, j'ai fait des photos pour des groupes et tout, et tout ça se mélangeait, mais je suis pas, je suis pas fan spécialement de rockabilly. J'aime le rockabilly, mais je veux dire, j'écoute mille autres choses, quoi. Et ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus moi ma démarche de reporter sur une bande, quoi. Et d'ailleurs, après, je peux expliquer le fonctionnement, comment j'ai réalisé ça, qui est vraiment typique de ce que je fais dans d'autres milieux, quoi.
Alors, on va le voir que t'as des goûts qui vont bien au-delà du rockabilly. Parce que c'est toi qui es en charge de la programmation musicale ce soir.
Oui.
On va commencer avec un morceau de Glenn Miller, In the Mood. Dans quel environnement musical, toi, tu as baigné à l'enfance et à l'adolescence?
Ce choix de Glenn Miller, là, c'est vrai que c'est un clin d'œil à mon enfance et à mon père qui écoutait du Glenn Miller et In the Mood, moi ça m'avait marqué parce que c'est quand même assez rythmé et ça a bercé une partie de mon enfance, et c'est également la période de la guerre et tout et qui a amené la présence américaine à Évreux, quoi.
Et c'était Glenn Miller, In the Mood, une version de 1941. Elle évoque bien évidemment la Deuxième Guerre mondiale et l'après-guerre. Tu as travaillé, toi, Gilles, dans de nombreuses villes françaises et étrangères. Pourquoi Évreux est resté ton terrain de chasse préféré, ton terrain de prédilection?
C'est tout naturel. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi à Évreux, j'ai fait mes études ici. Je suis parti juste quelques années à Perpignan dans les années 74-75 et je suis revenu à Évreux en 75. Et en fin de compte, moi j'ai collaboré à la Dépêche d'Évreux pendant pas mal d'années. C'est là où j'ai réellement commencé à travailler dans la photo. Je m'occupais du labo et j'ai commencé à faire des sujets, quoi. Voilà. Donc mon attachement à Évreux, c'est surtout parce que j'y ai travaillé et j'ai commencé à faire mes premières photos pour la Dépêche, mais également aussi c'était la période où je me découvrais avec une sensibilité très sociale sur la photographie et c'est un fait que à côté du travail que je faisais pour la Dépêche, j'ai fait énormément de photos pour documenter la vie hébroïcienne. On en a sorti un zine il y a très peu de temps, là il y a 2 ans, et qui reprend un peu une partie de l'histoire photographique qui était plutôt personnelle, quoi. Peu de ces photos sont parues dans la Dépêche et ça a été beaucoup plus la construction de ma photographie avec ce point de vue maintenant qu'on appelle street photographie, mais qui est beaucoup plus un point de vue politique ou social sur le monde qui nous entoure, sur la vie de ce monde et comment on subit ce monde, quoi. Voilà.
La rencontre, elle s'est faite avec eux, elle s'est faite comment?
Alors c'est tout bête. Je passais rue Chartrenne et un peu plus loin là, il y a un espace il y a la pièce d'eau devant la cathédrale et à un moment je tombe sur une bande qui faisait je sais pas une vingtaine de types, plus de 20 types et tout. Alors habillés avec les teddies, avec leurs manteaux et leurs bananes. Et là je me suis dit c'est pas possible. Faut que je sache de quoi il s'agit. Et j'ai commencé à aider leur causer. Et je leur ai dit que j'avais envie de les suivre. J'ai prétexté aussi que je travaillais à la Dépêche pour les suivre. Et là, j'ai tissé un lien avec eux petit à petit parce que bon, on se connaissait pas, on a appris à se connaître. C'est une série qui a duré à peu près 5 mois environ, quoi. Et c'est un fait qui, pour moi, il faut du temps pour lier des amitiés, pour qu'ils apprennent à me connaître, pour aussi que je les connaisse assez pour disparaître quand je suis avec eux. Et tout l'intérêt des images que j'ai pu produire, c'est l'écho que j'ai encore, c'est que on a l'impression que, je suis avec eux, mais il y a pas de regard vers moi. Et donc, ça veut dire que j'ai réussi à me fondre dans cette bande. Et c'est ça qui me semblait très intéressant parce que c'est l'aboutissement de ma photographie, ça. C'est être avec, mais disparaître.
Il faut aimer ces sujets pour les photographier.
Je pense, oui. Moi, j'avais une tendresse pour eux parce que ils sont. Moi, ce qui me touche, c'est les gens qui croient en quelque chose très fortement. Et eux croyaient fortement en cette. Toute la culture rockabilly et tout, et ça c'était extrêmement touchant, quoi. Je veux dire pour toutes les raisons qu'ils avaient de croire en ça. Donc ça me paraissait extrêmement important. Plus la culture voiture qu'ils avaient à côté, la culture US et tout, et qui était assez touchante. Alors que je me doutais qu'ils auraient pas les moyens d'aller aux USA, alors qu'ils en rêvaient, quoi.
Ils y sont allés d'une certaine manière. Alors, tu parlais des Teddy Boys tout à l'heure, toi qui étais en Angleterre. On reviendra d'ailleurs sur tes séjours en Angleterre. Les Teddy Boys, c'était des gens particulièrement violents. Les Rocks, hein, ces fameux rockabilly hébroïciens qu'on appelait les Rocks, mélangeaient le style vestimentaire décontracté des Américains et puis l'élégance masculine anglaise. Est-ce que c'était des gens plutôt pacifiques ou violents, les Rocks d'Évreux?
Non, je veux dire, c'est un fait que la mère d'un des rocks là de cette époque me disait qu'il passait pour des voyous, mais je pense que c'est simplement comme des comme n'importe quelle différence, la population voit dès qu'on est habillé différemment, les gens à part, et donc pensent que c'est des voyous. C'est, à l'époque, c'était un petit peu ça. Moi, je vois très bien, pour les avoir suivis, c'était beaucoup plus pour eux vivre une passion avec différents arguments qui étaient la musique, les voitures, et ça, c'était important, quoi. Mais la violence, ça a pu leur tomber dessus parce que on les a agressés, mais sans ça, il émanait rien de violent de leur part, quoi.
Et on va écouter ton deuxième choix musical, du blues, le blues qui est à la base de tout, Robert Johnson, Crossroad Blues. On vient d'écouter Robert Johnson, Crossroad Blues, le deuxième choix de mon invité Gilles Régoulet pour la sortie du film le 28 novembre, intitulé Rockabilly Forever au Manège Tilly. On va parler de l'Angleterre maintenant, et tu as eu deux choix, donc deux premiers choix de morceaux américains. 77-78, tu vas souvent à Londres, en pleine période punk. Ces jours en Angleterre ont-ils exacerbé ton attirance pour les musiques rock?
Oui, je traînais au Marquis, dans tous les lieux où on écoutait de la musique et tout. À l'époque, moi, j'écoutais beaucoup de hard rock et tout. C'est un fait que, c'est des lieux où passaient Hendrix et autres et tout, à certaines autres époques. J'allais traîner aussi, j'ai même fait beaucoup de photos qui sont sorties là en Angleterre et en France sur le festival de Reading, et où c'est pareil, là j'ai documenté le public de ce festival qui était la jonction entre différentes époques, le mouvement hippie, les mods, le début du punk, les rockers, bikers, et tout ça se côtoyait, mais tous les soirs, ça se bataillait pas mal.
Est-ce que tu as observé des points donc de similitude chez les rockers anglais, chez ces fameux rocks, ces bruitiens, parce que le milieu social, le contexte social n'est pas du tout le même d'un pays à l'autre?
Non, je pense que au niveau du rockabilly, en Angleterre, le phénomène avait commencé dès les années le début 70. On voit beaucoup de vidéos sur YouTube qui relatent les ambiances de certains clubs, certains pubs où ils sont très marqués. Et c'est un fait que moi, je veux dire, à cette époque-là, je voyais très bien que c'était un milieu très très ouvrier qui était sur cette tendance, quoi. Les Teddy Boys et c'était beaucoup plus les Teddy Boys. Les Teddy Boys étaient vraiment dans certaines banlieues londoniennes et tout, très présents et très habillés d'ailleurs. C'était assez étonnant, mais très marqué aussi. Bon, c'était un peu confus au niveau politique parce qu'il y a eu beaucoup de rattrapage aussi de ce qu'ils étaient, mais le milieu était très identifié.
Et donc la société anglaise de cette époque-là, de ce milieu-là, te paraît c'est plus violente.
Je veux dire, ça s'exprime fortement. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un fait que je veux dire, c'est vite violent, quoi. Je veux dire, à l'époque, je dis c'est vite violent là-bas, mais je vois aussi quand je sais pas, on prend les premiers concerts de Vince Taylor en France. Il y a des fois, ça dégénère, mais totalement, où ils saccagent tout, quoi. Je veux dire, l'Olympia a été saccagé, des salles de concert ont été saccagées. Je pense qu'il y avait, c'est dur de dire une expression, mais je veux dire, on était dans une époque où ça s'exprimait comme ça, quoi. Oui.
Help me, I can't do it all by myself. You got to help me, baby. I can't do it all by myself. You know, if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else. I may have to wash it, may have to sew. I may have to cook, I might mop the floor, but you help me, baby. You know if you don't help me, darling, I'll find myself somebody else. Put on your morning gown.
Help Me de Sonny Boy Williamson. On est resté aux États-Unis, même si on a évoqué l'Angleterre pour cette émission avec avec Gilles Rigoulet. Tu me disais hors antenne à propos du rockabilly que c'est un genre qui a eu plus de succès en Angleterre qu'aux États-Unis. Pourtant, il nous vient d'outre-Atlantique.
Oui, je pense que aux États-Unis, c'est un phénomène du Sud. Ça a été repris beaucoup plus commercialement par le Elvis et tout ce qui en a suivi. Mais c'était propre, quoi. C'était pour une jeunesse US qui était en fin de compte, qui avait cette dynamique comme il y a aux États-Unis de s'en sortir, alors que je vois comment en Angleterre, pour moi, ça a été beaucoup plus une résistance à des conditions qui étaient dures, qu'ont amené l'arrivée de Thatcher en 79, et c'est un fait que Londres à l'époque était moi, je sais pas, tous les quartiers que j'ai vus étaient d'une grande pauvreté et il fallait avoir des moyens pour sortir de tout ça, quoi. Et donc, c'est un fait que là, les rockabilly, les Teddy Boys en Angleterre, justement, se déguisaient, du moins avaient des grands manteaux et même dans leur apparence, ils étaient beaucoup plus, ils étaient très classe quelque part, et ça venait justement répondre à leurs conditions quotidiennes, qui étaient, une condition ouvrière et des quartiers pas faciles, quoi. Donc il y avait un jeu dans l'apparence qui venait contredire un peu les classes sociales, quoi.
Il y a quelque chose de très important qu'on n'a pas encore évoqué pour la sortie bientôt de ce film. Le documentaire sur les rockabilly va être fait de quoi ? Qu'est-ce qu'on va y retrouver ?
Alors, on va y retrouver... l'idée de base a été de les retrouver plus de 30 ans après et de leur donner la parole. Donc, et de comprendre un peu comment tout ça fonctionnait, le pourquoi. Et donc, c'est une suite pour le début d'interview de certains, de savoir aussi comment ils vivent encore actuellement avec le rockabilly qui est toujours présent dans leur quotidien. Et ça a été pour moi le moteur de ce documentaire. Après on rencontre aussi des gens qui sont actuels, comme Thibaut, qui a une revue qui s'appelle Rockin' Ball et qui a moins de 30 ans et qui est un passionné et qui a rencontré ces gars de la bande et qui a créé cette revue et donne une actualité, mais sur le contemporain du rockabilly. Et donc ça, pour nous, dans le documentaire, ça a été un point fort de savoir que ce monde du rockabilly n'était pas mort, c'est quelque chose, au contraire, de très vivant actuellement. Je pense que c'est l'effet de certaines vagues dans le temps, et là, il y a un retour complet. Pourquoi ? Parce que peut-être que le rockabilly, c'est quelque chose d'assez joyeux, je sais pas, on se retrouve, on crée des amis et tout. Et c'est vrai que Thibaut nous a un peu éclairé sur le monde actuel du rockabilly. Et du coup, on a travaillé aussi. Moi, je veux dire que c'est une musique vivante actuellement, quoi, avec des groupes jeunes qui ont autour de 20 ans et qui font un rockabilly, mais qui déménagent très fortement, quoi.
Et il y a aussi peut-être ce besoin de pureté originelle, de revenir au rock'n'roll des débuts dans une société qui est peut-être un peu formatée en ce moment, non ? Je sais pas quel avis tu as à toi là-dessus.
On va même pas aborder le formatage parce que là, c'est plus que du formatage. Je veux dire, c'est du détournement pour moi, mais le sujet n'est pas là. Et c'est un fait que je pense que cette musique est adaptée à une partie de la population qui a besoin de faire la fête, de se sentir bien, de se retrouver, de danser sur des c'est quelque chose de joyeux, le rockabilly, quoi. Il y a pas de problème. Moi, je vois à chaque fois que j'étais sur des concerts, les gens sont très friendly et tout, et tout de suite, on fait partie d'une famille, quoi, quelque part. Et c'est ça qui est important. Et actuellement, je pense que les gens ont besoin de ça, oui. Well, I'm dancing on a Saturday night. All alone where I can hold her tight. But she lives on the 20th floor of town. The elevator's broken down. So I walk one, flight three, flight four, five, six, seven, flight eight, flight more. Up on the 12th, I'm starting to drag. 50 to the floor, I'm ready to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Well, she calling me up on the telephone. She come on over, honey, I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet. But I'm in bed with the aching feet. This went on for a couple of days, but I couldn't stay away. So I walk one, two, fly, three, fly, four, five, six, seven, fly, eight, fly more. Up on the 12th, I'm ready to drag. Up 15th, the 4th, I'm starting to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Sent to Chicago for repairs. Till it's a fixed, I'm using the stairs. Up to her head before it's too late. Love my baby too much to wait. All this climbing is getting me down. To find my corpse draped over a rail. But I climb one, two, flight, three, flight, four, five, six, seven, flight, eight, flight, more. Up on the 12th, I'm ready to drag. Well, the 15th floor, I'm starting to sag. Get to the top, I'm too tired to rock.
C'était Eddie Cochran, un vieux titre, mais donc qui inspire encore beaucoup de jeunes générations. Quels sont pour toi, Gilles, les critères d'une bonne photo?
Bon, déjà, pour que ça soit une bonne photo, c'est une photo d'intérêt aussi, où il se passe quelque chose. Moi, j'ai toujours fait des photos qui marquent, je veux dire, qui exprime, où il y a une expression, il y a une composition, une relation entre les personnages et tout, et pas que, je veux dire, c'est un ensemble, avec le cadre et tout, les plans, je veux dire, faut pour moi tout soit dit et que ça soit situé et bien mis en place, quoi. C'est un fait que pour moi le cadrage a toujours été quelque chose d'extrêmement fort, mais pas que, je veux dire, pour moi c'est aussi ce qui s'y passe, quoi. Je veux dire, il faut qu'il y ait un dialogue lisible par tous tout de suite, quoi. Et ça, pour moi, ça c'est une bonne photo, quoi.
Et tu dis ne pas aimer le numérique. Pas étonnant. Moi, j'ai vu que ton œil fonctionnait à la vitesse d'un ordinateur. Est-ce que c'est la seule raison?
Moi, je fonctionne très vite quand je fais des photos. Je vais beaucoup plus vite que beaucoup de gens, je pense. C'est peut-être pour ça que j'arrive à me caler, à me rapprocher comme une sorte de courant d'air et que les gens ne comprennent même pas que j'ai fait une photo. Le numérique, pour moi, c'est pas mon monde. Pour moi, c'est froid. Je sais pas. J'ai l'habitude de me concentrer aussi sur un film, c'est-à-dire aussi de savoir que j'ai 36 poses. Et pour moi, ça, c'est important. Et je fais beaucoup aussi de moyens formats où là, je n'ai que 10 vues et c'est retrouver l'acte photographique. Rester sur l'acte photographique qui m'importe. Le numérique, je veux dire, je vois la plupart des gens qui pratiquent ça, je veux dire, appuient et sont persuadés qu'il se passera quelque chose. Non, c'est absolument pas comme ça que ça se passe. Je veux dire, une bonne photographie, je veux dire, c'est une photo. Moi, souvent, je vois mes planches contact. Je veux dire, il n'y a pas de secret, quoi. Je veux dire, il y a des fois, je fais une à deux photos, mais je fais pas 20 photos, 30 photos sur le même sujet. C'est un point précis, c'est un moment précis, c'est un carrefour de mille choses qui se mettent en place, et ça, c'est important. Le reste, non. Et le numérique détourne beaucoup l'esprit des gens parce que, voilà, ils sont persuadés que, voilà, j'appuie et il se passera des choses. Non, non, c'est pas du tout, du tout, du tout ça, quoi.
C'est l'abondance ou la surabondance qui prend le dessus sur la qualité de la photo et de l'instant.
Tout ça est mais c'est comme notre relation avec tous les réseaux sociaux, avec même nos téléphones et tout. On est sur quelque chose qui passe toujours vite, il faut toujours aller vite et tout, et on se concentre pas assez sur même une expression, mais en général, même avoir des idées. Moi, je vois actuellement, je veux dire, en photographie, il y a quelques propos intéressants, mais il y a une masse, parce que tout, une masse, parce que beaucoup de gens, je veux dire, la photo leur semble un médium abordable, donc tout le monde se lance là-dedans, mais c'est l'illusion, quoi. Je veux dire, c'est ils répètent mille choses, on fait comme un tel, un tel, un tel. On a l'impression de s'exprimer, mais l'expression n'est pas pensée, quoi. Je veux dire, c'est pas quelque chose de senti. Et il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Mais moi, j'en parle beaucoup dans des interviews. Je veux dire, c'est quelque chose d'intime, quoi. Je veux dire, les moments forts, c'est quelque chose qu'on va chercher au profond de soi et avec un désir. C'est pas juste comme ça, voilà. Et ce qui fait probablement la différence entre quelqu'un qui est qui vit la photographie et quelqu'un qui fait de la photographie, quoi.
Et là, je cite tes propos. Dans la vie, il y a toujours une sorte de façade des choses qui connaît des moments de relâche. Mmh. Ce moment où l'être humain revient à ce qu'il est. Mmh. Tu as plus souvent pris des photos du public dans les concerts que des artistes. Pour quelles raisons?
Oh, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est le vécu des gens, comment les gens prennent les choses, comment on sent les choses. Le côté façade et le côté pour le grand public, je veux dire, le côté même, moi, à l'époque, le côté presse, je veux dire, je me souviens, je sais pas, d'un championnat de boxe que je faisais pour La Dépêche, je veux dire, donc les photos, logiquement, se passent sur le ring. En fin de compte, moi, j'ai passé pratiquement tout mon temps dans les coulisses, parce qu'il s'y passait des choses beaucoup plus humaines, intimistes et tout. Je me souviens un cadrage très serré. C'est deux paires de genoux, sur une paire on comprend que c'est un homme, l'autre paire on comprend que c'est une femme parce qu'elle porte une jupe, et on a une main féminine sur la cuisse de l'homme, et en fin de compte c'est la femme du boxeur et qui se pose mille questions. Je trouvais ça, je sais pas, ces intimités révèlent aussi l'humain, et je pense que moi, si j'ai fait des photos sur tous les à côté, les coulisses de certains lieux, les vestiaires et tout, c'est parce que on retire sa panoplie, voilà, sa panoplie pour aller vers les autres, sa panoplie d'un personnage connu sur telle et telle chose. Donc, et on revient à qui on est un peu. Et donc c'est ce qui m'intéresse, c'est les gens sans le costume, quoi, voilà.
Get kicked out for coming home at dawn. Mom and dad curse.
c'était les Stray Cats, là, du rockabilly, mais dans les années 80, pour ce renouveau. Est-ce qu'il y a des choses, du film que tu n'as pas encore évoqué pour l'instant, que tu aimerais évoquer là en direct?
Une des choses qui me paraît extrêmement importante dans le documentaire, c'est le lien avec la région, la Normandie et le groupe qui a été présent lors de la remise des livres à une partie de la bande à Évreux, là, qui jouait justement dans un bar où je leur remettais le livre, et qui s'appelle les Hot Slap, qui est un groupe de rockabilly de Rouen, et qui commence à être pas mal connu en France. Et c'est un fait que, moi, j'ai tout de suite orienté, l'équipe sur ce groupe, parce que ils étaient les seuls représentants, seuls pas complètement, parce que je sais qu'il y a des groupes au Havre aussi, mais c'était de bons représentants de ce que je voulais mettre en avant. C'est-à-dire que il y a un contrebassiste, un batteur qui sont pas tout à fait de ma génération, mais une génération un peu en dessous, et un jeune guitariste qui a une vingtaine d'années, quoi. Et donc il représentait vraiment exactement, cette cohabitation de gens d'une époque et de jeunes qui se sont emparés du rockabilly, quoi. Et donc quand on a tourné un peu des concerts qu'ils ont réalisés dans la région, et à un moment on a appris qu'ils avaient une tournée aux États-Unis de prévue, donc à Austin, ça me paraissait important de les suivre là-bas pour cette jonction avec les terres de naissance du rockabilly, quoi. Et eux ont été extrêmement émus dans le suivi qu'on a fait sur place de jouer dans des lieux où étaient passés des groupes connus, quoi. Et c'est un fait que ils ont été un trait d'union avec cette idée, jeunes et moins jeunes, et les États-Unis, pour illustrer cette vie du rockabilly ici, là-bas, la naissance et le plaisir qu'ils ont eu aussi à vivre cette tournée, quoi. Et je pense que dans le documentaire, ça va être très visible, quoi.
SFEV Brand New Cadillac, un morceau, une reprise de 1989. Preuve est faite que la jeunesse et les nouvelles générations peuvent aborder le genre rockabilly à partir de leur époque. Ça donne quelque chose d'assez inédit, toujours très frais. Mmh. Et ce qui est authentique, ce qui est très bien fait, finalement, résiste très bien à l'épreuve du temps. La piscine d'Evreux était le point de départ de ta série sur le corps et l'eau. Tu me diras, rien à voir a priori avec les rockabilly. Sauf que tu as capté l'insouciance d'une époque, les années 80 et non les années 60, et d'un âge. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui est resté figé selon toi entre la société que tu photographiais dans les années 80 et aujourd'hui?
Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont restées déjà figées. C'est resté figé à une époque. Actuellement, il n'y a pas de pont entre nos époques, cette époque et maintenant. Moi, tout ce que je constate au travers de mon travail photographique, c'est au contraire, quand j'expose, par exemple, le travail sur le Coréo, qui a été en partie réalisé à Évreux et à la piscine Molitor, parce que c'est une série très connue, et dans d'autres lieux, je veux dire, tout le monde constate qu'il y avait eu une époque, les années 80, qui était beaucoup plus libre, beaucoup plus, vivante, festive et tout. Et beaucoup de jeunes amis qui ont une trentaine d'années me disent « Mais tain, quel pot tu as eu de vivre cette époque !» Et nous, on s'en rendait pas compte, quoi. Je veux dire, c'était commun, quoi. Je veux dire, et c'est un fait que... je vois photographiquement d'ailleurs, on revient beaucoup à cette époque parce qu'il y a eu beaucoup de choses de produites, mais peut-être toute époque produit beaucoup de choses, mais je veux dire, ça révèle aussi des mouvements d'idées, des laisser-aller à tout niveau qui, du moins, quand je dis laisser-aller, c'est la vie qui prend le dessus sur des règles, quoi. Et c'est un fait que on était moins... Il y avait moins de poids, quoi, en général, quoi, voilà. Vis-à-vis de maintenant, quoi.
Et l'émission touche bientôt à sa fin. J'ai l'occasion pour moi de te remercier, donc je le rappelle... le jeudi soir, le 28 novembre, au Manège Tilly, ton film sera projeté, Rockabilly Forever. Donc, bien sûr, je pense que ça te prend beaucoup de temps en ce moment. Quels seront les projets après la sortie de ce film pour toi?
Alors, déjà, c'est pas mon film, c'est, ce documentaire est à la base d'une de mes séries. J'ai suivi un peu ce documentaire, mais il a été réalisé avec une équipe également et proposé donc à France 3. Moi, je travaille sur, d'ailleurs, quelque chose qu'on va entrevoir lors de cette soirée. C'est un travail polaroid sur des portraits de rockabilly il y aura une série de portraits qui sera montrée lors de cette soirée et c'est un travail actuel que je poursuis là-bas. En général, moi, c'est sur des années, mais qui sera montré également au festival MAP de Toulouse en mai. Et qui sera un mixte sur la série Noir et Blanc Rockabilly et les portraits de Rockabilly en Polaroid qui sont contemporains, quoi. Et ça fait partie des nouveaux travaux, quoi, ça. Mais Polaroid, pour moi, est une matière qui m'intéresse parce que je poursuis également ce que j'appelle le Coréo en Polaroid depuis qu'on ne peut plus accéder aux piscines normalement, vu que toutes les piscines municipales sont interdites aux photos. Donc maintenant, je réalise des photos en piscine privée avec des modèles et ça fait partie du travail contemporain. Donc tout en Polaroid, la maison Polaroid me soutient sur ces différents travaux et c'est un bonheur de travailler avec de l'instantané unique où je retrouve aussi les conditions de ma photographie profonde, c'est-à-dire un acte, une photo et une composition, expression et quelque chose qui se tient en une photo.
Eh ben, je te remercie pour toutes ces explications, Gilles. Donc, on se retrouve le 28 novembre. On se quitte avec les Météores Bertalou. Nous, on se retrouve dans un mois, parce que dans 15 jours, ce sera Principe Actif part en live au Cube. Bonne soirée à toutes et à tous. À dans un mois. Salut. My feet, yeah.